Chapitre 4. Une amitié avec Dieu se nourrit de rendez-vous concrets. L'apôtre Jean a vu un fleuve brillant comme du cristal jaillir du trône de Dieu. Sur ses rives se trouve l'arbre de la vie qui donne des fruits 12 fois par an. Ses feuilles servent à la guérison des nations. Il existe des points communs entre cet arbre et l'homme qui met en pratique la parole. David décrit ainsi. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue, et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce qu'il fait lui réussit. Jérémie ajoute encore que cet homme-là ne cesse de porter des fruits. Apocalypse 22, versets 1 et 2, Psaume 1, verset 3, Jérémie 17, verset 8. Jusqu'ici, nous avons évoqué la louange et l'adoration, la victoire sur le péché et la culpabilité, et l'écoute de la voix de Dieu. Il s'agit maintenant d'organiser, sur son conseil, notre vie de prière et notre étude de la Bible. Ces éléments sont les racines qui plongent aux sources de la vie. Ils ne sont pas une fin en soi, mais ils permettent au tronc d'être solide, aux branches d'être saines, aux feuilles d'apporter la guérison et aux fruits d'être succulents. C'est dans cette intimité avec Dieu que tout débute et se développe. Si nous baignons notre vie dans le fleuve de Dieu, les fruits qu'elle portera seront constants et abondants. S'il existe des coutumes qui étouffent la vie de l'esprit, il en est aussi qui la servent. Si nous voulons des rendez-vous avec Dieu qui soient profonds et qui aient un sens, il nous faut trouver des stratégies qui plongent leurs racines en lui. C'est l'objectif de ce chapitre. La qualité de nos semaines, de nos saisons et de nos années en dépend. Quand Dieu nous fixe rendez-vous. Lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Matthieu 6, verset 6. Analysons la teneur de ce rendez-vous. Vouloir prier, c'est un choix. Un évangéliste renommé a dit « Si je priais uniquement quand j'en ai envie, je ne prierais que rarement. » Un pasteur a ajouté « D'abord la prière est une discipline, ensuite c'est un délice. » Entre dans ta chambre. C'est un endroit privé, familier et calme qui favorise l'intimité de la prière. Ferme la porte. L'ordinateur, le baladeur, la télévision ou la radio sont éteints. Le portable est débranché, les magazines et le courrier sont mis de côté. Pour ce qui est de notre entourage, soit ils respectent ce rendez-vous divin, soit, comme Jésus l'a fait, il faut se retirer dans un endroit caché. Un homme célèbre dit utiliser son bateau à cet effet. Personne ne le dérange au milieu du lac. Pour ma part, lorsque j'étais responsable du centre de jeunesse en mission à Lausanne, avec 80 collaborateurs, des étudiants en grand nombre et des équipes en mission sur plusieurs continents, c'est dans la forêt que je trouvais la sérénité pour ce dialogue. Loin d'être une fuite, fermer la porte est indispensable. Nul ne peut, en effet, donner valablement sans se ressourcer. Et prie. Certains rêvassent, dorment, bouquinent, réfléchissent, marmonnent, ruminent, jouent et laissent les restes à la prière. Un manque de discipline, mais surtout d'objectifs clairs, en est la cause. Une prière exprimée à mi-voix peut renforcer notre attention. Ton Père est là. Voilà une nouvelle bouleversante. Dieu est dans notre chambre. Parfois nous sentirons sa présence, d'autres fois non. Jamais nos sentiments n'en seront la preuve, mais seulement sa promesse. Il est là, dans le silence. Je ne te vois pas, mais je sais que tu es là simplement parce que tu l'as dit. La force de nos rendez-vous avec lui réside donc dans notre confiance en lui, et non dans ce que nous ressentons. Il voit ce que tu fais en secret. Ni les hommes, ni le diable ne sont invités. Il s'agit à cet instant d'un face-à-face, Dieu et moi. L'intimité la plus pure, la plus profonde, nous est offerte. Il te récompensera. Il apprécie notre foi, ce temps que nous mettons à part. Il nous écoute, nous inspire et nous parle. Il en est profondément heureux et nous récompensera. Si Jésus a pu donner des sermons qui ont marqué l'humanité, s'il a pu chasser les démons et soulager tant de misères, c'est grâce à ses rendez-vous seul à seul avec son Père. Vers le matin, quand il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Marc 1, verset 35, Ésaïe 50, versets 4 et 5. Après avoir renvoyé la foule, Jésus monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là, seul. Matthieu 14, verset 23. Si nous aspirons à vivre des journées de cette qualité-là, il nous faut les mêmes rendez-vous. Jésus ne s'en est pas servi essentiellement à ses propres fins, mais pour rentrer dans les desseins de Dieu. Il affirme que c'est sa nourriture. Jean 4, verset 34. Certains chrétiens prétendent ne pas avoir besoin de culte personnel, puisqu'ils sont déjà en communion avec Dieu toute la journée. Cette pensée est utopique, car le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si le Fils de Dieu a dû prendre du temps en tête-à-tête avec son Père, à combien plus forte raison devons-nous le faire si nous voulons que notre vie soit marquée par le feu et la présence de Dieu? Préparez vos rendez-vous avec lui. C'est en réfléchissant devant Dieu à votre culte personnel que ce dernier prendra toute sa dimension, et c'est au cours de ces rendez-vous précieux que votre vie se construira. J'aimerais vous inviter à tenter l'expérience. Accompagnez des lignes qui suivent comme aide-mémoire de votre agenda et de quoi prendre des notes. Retirez-vous, mettez-vous à l'aise et laissez Dieu éclairer votre chemin. J'ai l'habitude de mettre à part de temps à autre un ou plusieurs jours, dont le seul objectif de me tenir à l'écoute de Dieu et de développer cette amitié avec lui. Pour ma part, il m'est plus facile de le faire en marchant. Muni d'un dictaphone de poche, je résume au fur et à mesure l'essentiel de ce que je comprends. De retour chez moi, je le mets par écrit. Il m'est arrivé d'avoir des journées apparemment stériles, mais d'autres fois j'ai reçu des pensées qui m'ont fait gagner un temps considérable, parfois des années. Il m'arrive aussi de ressentir son invitation par surprise, comme s'il me disait « Carlo, j'ai quelque chose à te dire ». Selon les circonstances, je m'arrête sur la prochaine aire d'autoroute, je prolonge mes activités en ville par un tête-à-tête au calme, ou encore j'enfile mes chaussures pour une promenade à son écoute. Parfois il ne se passe rien de bien particulier, mais d'autres fois l'inspiration est intense, comme si sa lumière éclairait ma vie. Tous les domaines sont concernés et pas seulement ceux que nous appelons spirituels. Comment pouvons-nous, par cet exercice, gagner des années? Avec le recul, je réalise que Dieu m'a aidé à différencier et à séparer l'essentiel du secondaire, à réorienter mon travail, à perfectionner une langue, à écrire un nouveau livre, à faire la bonne acquisition au moment opportun, à retrouver la paix après des temps agités, à choisir mes collaborateurs. Il m'a ainsi conduit à m'entourer de conseillers qui, par la suite, ont formé l'équipe porteur de vie. C'est également lors de ces rendez-vous d'écoute que j'ai compris que je pouvais transformer l'information qui me parvient, qu'elle soit internationale, nationale ou locale, en intercession. Que j'avais autorité pour faire entrer ma famille dans la bénédiction promise à Abraham. Que je n'étais plus spectateur, mais acteur dans l'histoire de l'humanité. Que j'avais le mandat divin, comme tout chrétien, de prier pour tous les hommes, donc aussi pour des communautés très diverses, des corps de métier, des cités, des cantons, des départements et pour toutes les nations et tous les continents. Que je pouvais bénir mes amis, mes collègues, mes voisins. Que les moyens qui m'étaient offerts pour influencer la société étaient très nombreux. Je pouvais confesser ses péchés, soutenir ses autorités, résister aux desseins du malin et participer aux projets sans cesse renouvelés de Dieu. Oui, je crois sincèrement que des années peuvent être gagnées ou gaspillées selon que nous cherchons pratiquement son conseil ou non. Dans ces moments-là, j'ai bien vite réalisé que, sans une saine organisation de ma vie de prière, j'allais partir en tous sens, oublier de vastes domaines ou finir par me lasser. Vous ne pourrez pas embrasser chaque idée. Pour ma part, je n'en applique que quelques-unes à la fois. Par contre, je m'efforce de renouveler régulièrement mes stratégies et objectifs. C'est ainsi que mes rendez-vous avec Dieu gardent fraîcheur et pertinence. Je vous recommande de commencer en recherchant et en planifiant vos objectifs sur une année. Le but du questionnaire qui suit n'est pas d'y inscrire toutes vos idées pour demander ensuite à Dieu de les bénir, mais de vous aider à vous mettre à son écoute afin qu'il bénisse les aspects qu'il vous confie. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, verset 13. Réflexion. Comment vais-je agencer mes rendez-vous avec Dieu? Le lieu? L'heure? La durée? Les rendez-vous exceptionnels? La prière d'intercession. Bien que le ciel soit rempli de créatures merveilleuses, notre privilège est de parler directement avec celui qui en est le centre, le seul qui soit incréé, qui n'a ni commencement ni fin. Imaginez que le président de votre pays vous propose le marché suivant. Si, à partir d'aujourd'hui, vous vous occupez de mes intérêts, je veillerai personnellement sur tous les vôtres. Son pouvoir et son rang devraient vous convaincre qu'accepter est à votre avantage. Bien qu'imparfaite, cette image peut néanmoins nous aider à comprendre une promesse fantastique de l'Écriture. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Jésus l'enseignait en contraste avec les païens qui ne se préoccupent que d'eux-mêmes, à savoir boire, manger, s'habiller, moi, moi et encore moi. Le royaume dans lequel nous sommes entrés n'est pas fondé sur l'égocentrisme, mais sur le don et l'amour. Le chrétien qui ne se préoccupe que de lui-même reste un bébé spirituel. La prière d'intercession permet à Dieu de nous partager ses préoccupations, ses désirs, sa pleine volonté. Elle a révolutionné ma vie. Répétons-le, l'ami de Dieu n'est pas l'homme qui cesse de penser, de choisir et de ressentir, mais celui qui, librement, apprend à vouloir ce que Dieu veut, à penser ce que Dieu pense et à recevoir les sentiments de Jésus-Christ. L'intercession consiste à rechercher sa volonté pour ensuite prier afin qu'elle s'accomplisse. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Dieu ne peut-il accomplir sa volonté sans notre prière? Il le peut, mais ne le veut pas. Il nous appelle comme fils et filles à collaborer à ses plans. Comme habitants et gérants de notre planète, notre prière est un appel, un plébiscite en faveur des desseins de Dieu sur la terre. Il aime agir sur l'invitation d'un être humain qui adhère de cœur à sa volonté et non comme un dictateur qui imposerait ses vues. Dans le premier livre de cette collection, « Comment influencer toute l'humanité », trois sujets sont traités. Ils sont à placer au cœur de ces rendez-vous. Il s'agit de l'intercession qui change les nations, la prière pour le salut de ceux qui nous entourent, la prière qui couvre notre planète, en 12 thèmes pour chaque jour de l'année. Deux autres vastes domaines viennent encore s'ajouter à notre matière. La prière pour les malades, traitée dans le deuxième livre. La prière pour les corps de métier, développée dans le neuvième livre, « Comment s'épanouir dans son travail ». Je vous recommande vivement de les lire ou de les relire, non pour me recommander moi-même, mais par nécessité. Dès le début de cette série, je savais que ce livre-ci ne pourrait jamais contenir à lui seul un sujet aussi riche que le dialogue planétaire qui se crée entre le Créateur et ses enfants. Intercéder, c'est partager la passion de Dieu, entrer dans des dimensions historiques et internationales, démolir et construire, travailler avec Dieu et en son nom. Ces thèmes font donc intégralement partie du présent sujet. Bien souvent, mais non obligatoirement, nous commencerons par prier selon les informations que nous avons. C'est presque imperceptiblement que l'inspiration prendra le relais, mais Dieu sait comment le faire. des idées nouvelles, plus profondes, plus grandes, plus complètes, plus proches de la réalité et du terrain, se développeront dans notre esprit. L'intérêt naturel fera place au fardeau divin. Les valeurs humaines pâliront tandis que les valeurs du royaume de Dieu prendront de l'éclat. Notre amour limité, ou notre manque d'amour, sera remplacé par le tant aimé de Dieu. Notre foi saisira ses promesses. Les mots prendront un poids jusque-là inconnu. Notre intelligence saisira des principes nouveaux. Notre être tout entier se sentira concerné et participera à cette construction spirituelle. Notre vie est courte, mais Dieu peut nous donner des prières sans frontières dont l'influence traversera les siècles. Que se passerait-il si, du 1er au 23 du mois, les Suisses priaient ainsi chaque jour pour un de leurs cantons? Ou si les Français couvraient en un peu plus d'un trimestre chacun de leurs départements? Ou encore si chaque chrétien de cette planète priait avant tout pour tous les hommes? Votre chambre peut et doit devenir une rampe de lancement pour missiles intercontinentaux de bénédiction. Nous touchons ici au cœur du culte personnel. Vous devenez un acteur privilégié dans l'histoire de l'humanité, un bâtisseur pour l'éternité, un ouvrier avec Dieu. Il n'existe rien de plus passionnant. Qu'est-ce que Dieu aimerait que je vive au niveau de ma vie personnelle de prière? Pour transformer l'information en intercession, pour les membres de ma famille, pour mes collègues, les élèves de ma classe, les professeurs de mon école, pour les hommes et femmes de Dieu, pour les non-chrétiens qui me tiennent à cœur, la plupart des gens se convertissent suite à la prière de l'un de leurs proches. Pour mes voisins, les familles de mon immeuble, pour les malades que je connais, pour les corps de métier de ma région, pour ma ville et ses quartiers, pour les cantons ou départements de mon pays, pour les 10 ou 20 personnes les plus influentes de mon pays, pour les nations, pour confesser les péchés de mon peuple, de ma famille, de ma ville, des nations. C'est suite à une telle recherche que durant plus d'un an, j'ai pris quelques minutes pour prier, chaque lundi pour un membre de ma famille jusqu'au petit cousin, chaque mardi pour l'un de mes amis, chaque mercredi pour un homme ou une femme de Dieu dans le ministère, chaque jeudi pour une ville ou un village que j'avais visité, chaque vendredi pour un non-chrétien de mon entourage. Quel combat spirituel dois-je affronter et comment? Face à un ennemi qui me vole, qui s'oppose farouchement à ma marche en Christ, qui me fait perdre mes forces, qui attaque ma santé, qui met ma vie et celle de mes proches en danger. Dans votre cahier de culte personnel, vous pouvez noter les décisions fondamentales qui concernent votre vie d'intercesseur, les stratégies et les sujets choisis pour la saison qui vient, les listes de noms, amis, famille, et les pages nécessaires à chacune d'elles, les champs de bataille sur lesquels vous combattez, votre bilan de santé physique actuel et vos objectifs et espérances à ce sujet. La Bible, lisez-la comme un courrier de Dieu pour vous aujourd'hui. Je peux ouvrir ma Bible comme j'ouvre le courrier, un courrier prioritaire qui me parvient de celui que j'aime et pour lequel je vis. Son objectif est de me faire connaître Dieu et de m'amener à l'aimer et à conformer ma vie à sa volonté. Cette connaissance n'est pas théorique, elle est à appliquer aux diverses situations de la vie. Ce courrier journalier ne contient pas toujours ce que je voudrais entendre, mais il contient ce que je dois entendre. Avez-vous déjà lu en entier la lettre de Dieu pour vous? Il suffit d'en lire un peu plus de 3 chapitres par jour pour le faire en une année. Quelqu'un a encore appelé la Bible le manuel du fabricant. Lorsque j'exerçais ma profession dans l'électronique, nous fournissions toujours un mode d'emploi avec l'appareil livré. Le client pouvait en tenir compte ou non. Cependant, la meilleure façon d'opérer était celle indiquée par le concepteur. Ce manuel m'apprend donc aussi à me connaître et à comprendre le monde dans lequel je vis. Les chrétiens reconnaissent la Bible comme la parole de Dieu, mais peu la lisent comme la parole de Dieu pour eux aujourd'hui. Prenons un texte connu que nous lirons, bien entendu, comme une parole que Jésus a adressée à ses disciples et, plus encore, comme une parole de Jésus pour nous à cet instant. Pour mieux saisir ce principe, j'ai remplacé le « vous » par « tu ». Déjà tu es pur à cause de la parole que je t'ai annoncée. Demeure en moi et je demeurerai en toi. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi tu ne le peux non plus si tu ne demeures en moi. Je suis le cep, tu es un sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi tu ne peux rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si tu demeures en moi, et que mes paroles demeurent en toi, demande ce que tu voudras, et cela te sera accordé. Si tu portes beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que tu seras mon disciple. Comme le Père m'a aimé, je t'ai aussi aimé. Demeure dans mon amour. Si tu gardes mes commandements, tu demeureras dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je t'ai dit ces choses afin que ma joie soit en toi et que ta joie soit parfaite. Jean 15, versets 3 à 11. Si la Bible est mon manuel de vie, sa lecture devient l'un des moments privilégiés de la journée. Dieu me parle régulièrement et précisément. Mon appétit grandit. Avant longtemps, j'aurai achevé de la lire. Je recommencerai et la révélation se précisera, grandira. Mes objectifs, études de personnages, doctrines, questions personnelles pourront accompagner cette nouvelle lecture. Notre connaissance biblique ne doit pas rester cérébrale. Elle doit nous amener à aimer Dieu, à le connaître afin de pouvoir parler et agir en son nom. Changez régulièrement de version. Il est naturel de s'attacher à une version plutôt qu'à une autre, mais peu à peu les expressions et les constructions grammaticales deviennent si familières que plus rien ne nous étonne. Certains finissent par donner plus d'importance à la connaissance de leur version qu'à celle de Dieu. La Bible se définit elle-même non comme une berceuse, mais comme une épée. Sa lecture ne doit donc pas nous bercer, mais nous transpercer. Mangez équilibré en variant votre lecture. Beaucoup d'entre nous aiment les pommes de terre frites. Supposez que je vous invite chez moi et vous en offre à l'apéritif, vous trouveriez cela original. Si mon épouse vous présentait ensuite les frites comme entrée, par politesse, vous en mangeriez encore quelques-unes, mais quelle ne serait pas votre surprise en voyant le plat principal arriver, une montagne de frites. Ayant peur de l'indigestion, vous en piquerez encore 3 ou 4. Quant au dessert de frites, vous le jetteriez discrètement au chien sous la table. Variez votre lecture et n'attendez pas d'avoir une indigestion pour le faire. La Bible est une bibliothèque de livres diversifiés. Biographies, enseignements, aventures, prophéties, proverbes, comptes rendus, etc. Que de gens démarrent tout feu tout flamme avec la Genèse, s'ensablent dans le Lévitique et abandonnent leur lecture dans les Nombres. Pour éviter ce piège, prenez un psaume en apéritif, un passage dans un livre historique en entrée, rassasiez-vous du plat principal par un passage des Épîtres et offrez-vous un bon dessert dans les Évangiles. Cela n'est qu'un exemple, l'important étant de vous nourrir sainement. De plus, comme dans toute phase de croissance, votre appétit connaîtra des fluctuations. Tenez-en compte avec sérénité et équilibre. Je vous conseille donc de lire, à votre rythme, chaque livre d'un bout à l'autre, sans penser qu'il faut obligatoirement lire tous les livres dans l'ordre, de la Genèse à l'Apocalypse. Des marque-pages placés dans les livres lus conjointement ou sont donc indispensables. Mangez de saison en laissant Dieu vous conduire dans le choix des livres bibliques que vous lisez. Comme le chauffage trouve son utilité en hiver et le climatiseur dans les jours de grande chaleur, une lecture en phase avec vos saisons de vie vous sera bien plus profitable. Dans ce dessin, j'ai pris l'habitude d'ouvrir ma Bible à la table des matières et d'en parcourir les lignes dans un esprit de prière. Je retiens un ou plusieurs livres que le Saint-Esprit me met à cœur pour les semaines à venir. Un astérisque me rappelle combien de fois le livre a été lu afin d'équilibrer à long terme l'ensemble de mes lectures. Comme jeune chrétien, j'avais pris l'habitude, pour mieux saisir le sens de chaque livre biblique, de noter une phrase résumant le chapitre lu. C'est un exercice que je vous recommande d'accomplir, livre après livre, au moins une fois dans votre vie. Une lecture interactive. À la même époque, j'avais aussi noté par thème toutes les questions qui me passaient par la tête. Bien vite, j'ai constaté que de multiples réponses m'étaient données plus rapidement que prévu. J'ai repris ce vieux cahier et vous en livre quelques-unes en vrac. Pourquoi Dieu a-t-il créé un si grand univers? Dieu juge-t-il les peuples par le climat? Les animaux se dévoraient-ils entre eux avant la désobéissance d'Adam et Ève? Quel verset prouve l'existence des choses invisibles? Qui a créé le péché? Comment les hommes étaient-ils sauvés dans l'ancienne alliance? Pourquoi Dieu laisse-t-il le mal sur terre? Quelle est la clé d'une vie réussie? Comment reconnaître une secte? Quel est le rôle des anges? Je prenais soin de noter chaque réponse, référence à l'appui. Par la suite, dans l'évangélisation, j'ai été moi-même surpris de constater qu'il suffisait d'ouvrir l'écriture au bon endroit pour que mon interlocuteur découvre la pertinence du texte en réponse à la plupart de ses questions. La méditation. Si la lecture de la Bible peut se comparer à un survol maritime, la méditation, elle, équivaut à une partie de plongée sous-marine. Celui qui survole la mer peut s'exclamer « C'est magnifique, grandiose, que de nuances dans les teintes !» Mais celui qui y plonge entre dans un nouvel univers. Les couleurs varient à l'infini. Le sable, les rochers, les plantes aquatiques forment un cadre harmonieux et sans cesse renouvelé. Les espèces de poissons, de mollusques, de crustacés se comptent par milliers. Dans les deux cas, il s'agit de la mer, mais qui la connaît vraiment? Chacun doit apprendre à plonger dans les eaux profondes de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle alors sa sainteté, sa douceur, son humilité, son pardon, ses joies, ses déceptions, sa colère. Un Dieu qui étonne, interpelle, forme, corrige, relève toujours avec la même tendresse. Un Dieu extraordinaire auquel nous nous abandonnons. Souvenons-nous que celui qui médite cette parole bénéficie de deux promesses de poids. Il est heureux et réussit ce qu'il entreprend. La mémorisation. Il existe bien des méthodes de mémorisation, mais elles ne remplacent pas le travail et les répétitions. La mémoire est comme un muscle. Elle se développe ou s'atrophie selon que nous l'exercions ou non. Dans ce domaine, chacun connaît des périodes d'enthousiasme où sa motivation est aiguisée et des temps de calme plat. Votre méthode doit pouvoir y survivre. Quel que soit le procédé que vous choisissez, planifiez-le à long terme. Ceux qui en changent constamment, 2 versets inscrits sur un cahier, 3 autres sur leur agenda, ne progressent pas. Votre façon de choisir, de noter et de mémoriser les versets et les passages bibliques doit être fiable. N'en sélectionnez pas trop à l'avance sans les apprendre par cœur. Vous éviterez ainsi de vous décourager. Voici une idée parmi de nombreuses possibilités. Prenez une boîte de diapositives vide. Préparez ou achetez 1 ou 2 centaines de petites cartes de format diapo que vous disposerez dans la boîte. Chaque fois que vous apprenez un verset par cœur, écrivez-le au recto d'une carte et notez la référence au verso. Vous pourrez ainsi, dans vos moments libres, en voyage, dans les salles d'attente, au coucher ou au lever, répéter quelques versets, soit à partir de la référence en récitant le texte, soit en retrouvant la référence avec le texte sous les yeux. Une telle méthode résiste à l'épreuve du temps et peut vous accompagner partout. Pour apprendre des paragraphes ou des chapitres entiers, je vous recommande une méthode sur brochure illustrée mise au point par le pasteur Philippe Aubert. Résumé. Lisez la Bible en entier dans le but de connaître Dieu et de conformer votre vie entière à sa volonté. Prenez-la comme un courrier de Dieu pour vous aujourd'hui. Changez régulièrement de version. Mangez équilibré en variant votre lecture. Mangez de saison en vous laissant conduire dans le choix des livres bibliques à lire. Organisez une lecture interactive, personnalisée. Plongez en eau profonde par la méditation. Retenez ce que l'Esprit Saint vous révèle pour le mettre en pratique. Voici quelques passages à méditer pour commencer. Ésaïe 6, 1 à 8. Matthieu 13, 16 à 23. Luc 9, 23 à 26. 2 Timothée 3, 10 à 17. Mémorisez des textes clés au moyen d'une méthode fiable. Réflexion. Quels sont les prochains livres bibliques que je lirai? Quel rythme de lecture vais-je adopter? Quelle version vais-je choisir? Quand vais-je prendre le temps de méditer? Quels sont mes objectifs à ce sujet? Quelle méthode de mémorisation vais-je choisir? Quels sont mes objectifs à ce sujet? Dans votre cahier de culte personnel, vous pouvez noter ce que vous apprenez des attributs de Dieu, sa bonté, sa sévérité. Ce que vous apprenez sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. Une phrase qui résume chaque chapitre lu, livre après livre. Le résumé de l'étude d'un personnage biblique. Le résumé du fruit de plusieurs méditations. Les versets et passages classés par livre que vous aurez mémorisés. Les questions que vous vous posez, même les plus difficiles, sur Dieu et ses œuvres, vous-même, la vie en général, celles qui surviennent dans l'évangélisation, celles de votre choix.